Chapitre 4. Mais le rôle terrible de Charles de Duras devait commencer aussitôt que le crime serait consommé. Le duc laissa pendant 2 jours, au vent et à la pluie, sans sépulture et sans honneur, le cadavre de celui que le pape avait déjà nommé roi de Sicile et de Jérusalem, afin que cette vue misérable augmentât l'indignation de la foule. Puis le 3e jour, il le fit transporter avec la plus grande pompe à la cathédrale de Naples, et rassemblant tous les Hongrois autour du catafalque, il s'écria d'une voix tonnante « Nobles et manants, voici notre roi lâchement étranglé par une trahison infâme. Dieu ne tardera pas à nous livrer les noms de tous les coupables. Que ceux qui désirent que justice soit faite lèvent la main en jurant au meurtrier une persécution sanglante, une haine implacable, une vengeance éternelle. » Alors, ce ne fut qu'un seul cri qui porta la désolation et la mort au cœur des conjurés, et le peuple se dispersa par la ville en criant « Vengeance ! Vengeance !» La justice divine, qui ne connaît point de privilèges et qui ne s'arrête pas devant une couronne, frappa d'abord Jeanne dans son amour. Lorsque les deux amants se retrouvèrent en présence, saisis mutuellement d'horreur et de dégoût, ils reculèrent en tremblant. La reine ne voyant en lui que le bourreau de son mari, et lui ne voyant dans la reine que la cause de son crime et peut-être de sa punition imminente. Les traits de Bertrand d'Artois étaient bouleversés, ses joues creuses, ses yeux cernés d'un cercle livide. Sa bouche horriblement contractée, le bras et l'index tendus vers sa complice, il voyait se dresser devant lui une affreuse vision. Le même cordon avec lequel il avait étranglé André, il le voyait maintenant autour du cou de la reine, tellement serré qu'il entrait dans les chairs, et une force invisible, une inspiration satanique, le poussait, lui, Bertrand, à étrangler de ses propres mains cette femme qu'il avait tant aimée, qu'il avait autrefois adorée à genoux. Le comte s'élança hors de la chambre en faisant des gestes désespérés, en prononçant des paroles incohérentes, et comme il donnait des signes d'égarement et de folie, son père, Charles d'Artois, l'entraîna avec lui et le soir même, ils partirent pour leur terre de Sainte-Agathe et s'y fortifièrent en cas d'attaque. Mais le supplice de Jeanne, supplice lent et terrible qui devait durer 37 ans, et se terminer par une mort affreuse, ne faisait que de commencer à peine. Tous les misérables qui avaient trempé dans la mort d'André se présentèrent tour à tour pour demander le prix du sang. La Catanèse et son fils, qui avaient maintenant dans leurs mains non seulement l'honneur, mais la vie aussi de la reine, redoublèrent d'avidité et d'exigence. Donna Garcia ne mit plus aucun frein à ses débauches, et l'impératrice de Constantinople somma sa nièce d'épouser son fils aîné, Robert, prince de Tarente. Jeanne, rongée par ses remords, dévorée par l'indignation, humiliée par l'arrogance de ses sujets, n'osant plus relever le front, accablée sous la honte, descendit aux prières et se borna à demander quelques jours de délai. L'impératrice y consentit à la condition que son fils viendrait habiter le château neuf et aurait la permission de voir la reine une fois par jour. Jeanne courba la tête en silence et Robert de Tarente fut installé au château. De son côté, Charles de Duras, qui par la mort d'André était devenu presque le chef de la famille, et qui, au terme du testament du vieux roi, dans le cas où Jeanne mourait sans enfant légitime, héritait du royaume par sa femme Marie, Charles de Duras intima 2 ordres à la reine. Premièrement, qu'elle ne songeât pas à contracter de nouvelles noces sans le consulter sur le choix de l'époux. Secondement, qu'elle eut à l'investir sur le champ du titre de duc de Calabre. Et pour déterminer sa cousine à ce double sacrifice, il ajouta que s'il était assez mal avisé pour lui refuser une de ses deux demandes, il livrerait à la justice les preuves du crime et les noms des meurtriers. Jeanne, fléchissant sous le poids de ce nouveau malheur, ne trouvait pas d'expédient pour l'éviter. Mais Catherine, qui était seule de taille à lutter contre son neveu, répondit qu'il fallait frapper le duc de Duras dans son ambition et dans ses espérances, en lui déclarant d'abord, comme c'était la vérité, que la reine était enceinte. Et si, malgré cette nouvelle, il persistait dans ses projets, qu'alors elle se chargerait de trouver quelque moyen pour jeter dans la famille de son neveu le trouble et la discorde, pour le blesser dans ses affections ou dans ses intérêts les plus intimes, pour le déshonorer publiquement dans la personne de sa femme et de sa mère. Charles sourit froidement lorsque sa tante vint lui rapporter, de la part de la reine, que cette dernière allait mettre au monde un enfant d'André. En effet, quelle importance pouvait avoir un enfant encore à naître, et qui ne vécut réellement que peu de mois aux yeux d'un homme qui se défaisait avec un si admirable sang-froid et par la main même de ses ennemis des personnes qui le gênaient dans sa carrière. Il répondit à l'impératrice que cette heureuse nouvelle qu'elle daignait lui annoncer de sa propre bouche, loin de diminuer son indulgence pour sa cousine, l'engageait au contraire à lui prouver plus de bonté et plus d'intérêt, et que par conséquent il réitérait sa proposition et renouvelait sa promesse de ne pas poursuivre la vengeance de son cher André, puisque en quelque sorte le crime n'était pas entièrement consommé si survivait un enfant. Mais il se montra inflexible en cas de refus. Il fit comprendre adroitement à Catherine de Tarente que, comme elle était bien pour quelque chose dans la mort du prince, elle aurait dû, pour son propre compte, déterminer la reine à étouffer le procès. L'impératrice parut vivement affectée de l'attitude menaçante de son neveu et lui promit de faire son possible pour persuader à la reine de lui accorder tout ce qu'il lui demandait, à condition cependant que Charles lui donna le temps nécessaire pour mener à bout une négociation aussi délicate. Mais Catherine profita du délai qu'elle avait su arracher à l'ambition du duc de Duras pour méditer sa vengeance et s'assurer les moyens d'un infaillible succès. Après plusieurs plans accueillis avec empressement et abandonnés avec regret, elle s'arrêta à un projet infernal, inouï, et que l'esprit se refusait à croire s'il était attesté unanimement par tous les historiens. La pauvre Agnès de Duras souffrait depuis plusieurs jours d'une mystérieuse langueur, et peut-être le caractère inquiet et turbulent de son fils n'était pas la dernière cause de cette lente et pénible maladie. Ce fut sur cette mère infortunée que l'impératrice résolut de faire tomber les premiers effets de sa haine. Elle fit venir le comte de Terlizzi et sa maîtresse Donna Concia, et comme cette dernière, par ordre de la reine, assistait Agnès depuis sa maladie, Catherine insinua à la jeune camérière, qui était alors enceinte, de substituer son urine à celle de la malade, afin que le médecin, trompé par cet indice, fut forcé d'avouer à Charles Duras la faute et le déshonneur de sa mère. Mais le comte, qui depuis la part qu'il avait prise au régicide, tremblait à chaque instant d'être dénoncé, ne rien à opposer aux volontés de l'impératrice. Et Donna Concia dont la tête était aussi légère que le cœur était corrompu, accueillit avec une folle gaieté l'occasion de se venger de la pruderie d'une princesse du sang qui seule s'avisait d'être vertueuse au milieu d'une cour renommée par sa dépravation. Une fois assurée du consentement et de la discrétion de ses complices, Catherine fit circuler des bruits vagues et douteux, mais d'une terrible gravité, s'ils pouvaient être confirmés par une preuve. Et aussitôt émise, la perfide accusation arriva de confidence en confidence à l'oreille de Charles. Saisi d'un tremblement convulsif à cette éclatante révélation, le duc fit appeler à l'instant même le médecin de la maison et lui demanda impérieusement quelle était la cause de la maladie de sa mère. Le médecin pâlit, balbutia, mais, pressé par les menaces de Charles, lui avoua qu'il avait des soupçons assez fondés pour croire que la duchesse était enceinte, mais que, comme une première fois, il aurait pu se tromper avant de se prononcer dans une matière si grave, il demandait à faire une seconde observation. Le lendemain, au moment où le docteur sortait de la chambre d'Agnès, le duc alla au-devant de lui et, après l'avoir interrogé par un mouvement plein d'angoisse, au silence qui suivit sa demande, il comprit que ses craintes n'étaient que trop réelles. Cependant, le médecin, s'armant d'une précaution excessive, déclara qu'il voulait s'en remettre à une troisième expérience. Les damnés n'ont pas d'heures plus longues que celles qui s'écoulèrent pour Charles, jusqu'au fatal moment où il acquit la certitude que sa mère était coupable. Le troisième jour, le médecin affirma en son âme et conscience qu'Agnès de Duras était enceinte. « C'est bien, » dit Charles en congédiant le docteur, sans montrer aucune émotion. Le soir, on administrait à la duchesse un remède que le médecin avait ordonné, et comme une demi-heure après, elle fut assaillie de violentes douleurs, on avertit le duc qu'il fallait peut-être consulter d'autres savants, puisque l'ordonnance du médecin ordinaire, au lieu de produire une amélioration dans l'état de la malade, n'avait fait que l'empirer. Charles monta lentement chez la duchesse, et renvoyant tous ceux qui étaient autour de son lit, sous prétexte que par leur maladresse ils ne faisaient qu'irriter les souffrances de sa mère, il s'enferma seul avec elle. La pauvre Agnès, oubliant à la vue de son fils les tortures qui déchiraient ses entrailles, lui serra la main avec tendresse et lui sourit à travers les pleurs. Charles, le front baigné d'une sueur froide blême sous son teint cuivré, la prunelle horriblement dilatée, se pencha sur la malade et lui demanda d'une voix sombre « Eh bien, ma mère, allez-vous un peu mieux ?»« Oh, je souffre affreusement, mon pauvre Charles. Je sens comme du plomb fondu qui coule dans mes veines. Oh, mon fils, fais venir tes frères pour que je puisse vous bénir une dernière fois. » Que je ne pourrai longtemps résister à ma douleur. Je brûle, oh, par pitié, appelez vite un médecin, je suis empoisonné. » Charles ne bougeait pas de son chevet. « De l'eau !» répétait la mourante d'une voix entrecoupée. « De l'eau ! Un médecin, un confesseur, mes enfants, je veux voir mes enfants !» Et comme le duc demeurait impassible, dans un morne silence, la pauvre mère, quoique affaissée par ses souffrances, croyant que la douleur avait ôté à son fils la parole et le mouvement, se leva sur son séant par un effort désespéré et, le secouant par le bras, s'écria de toute la force qui lui restait. « Charles, mon fils, qu'as-tu, mon pauvre enfant? Courage, ce ne sera rien, j'espère. Mais vite, appelez du secours. Appelez mon médecin. Oh, vous ne pouvez pas vous faire une idée de ce que je souffre. Votre médecin, reprit Charles d'une voix lente et froide, dont chaque mot s'enfonçait dans l'âme de sa mère comme un coup de poignard, votre médecin ne peut pas venir. Et pourquoi? Demanda Agnès atterrée. Parce que celui qui possédait le secret de notre honte ne devait plus vivre. Malheureux! S'écria la mourante au comble de l'effroi et de la douleur. Vous l'avez assassiné! Vous avez peut-être empoisonné votre mère! Oh, Charles, Charles, pitié pour votre âme! Mais c'est vous qui l'avez voulu, reprit Charles d'une voix sourde. C'est vous qui m'avez poussé au crime et au désespoir. C'est vous qui êtes la cause de mon déshonneur dans ce monde et de ma perdition dans l'autre. Mais que dites-vous, mon Charles, par pitié, ne me faites pas mourir dans cette affreuse incertitude. Quel fatal égarement vous aveugle. Parlez, parlez, mon fils. Je ne sens déjà plus le poison qui me dévore. Que vous ai-je fait? Mais de quoi m'a-t-on accusé? Et elle regarda son fils d'un œil hagard, où l'amour maternel luttait encore contre la pensée atroce du parricide. Puis, voyant que Charles restait muet malgré ses prières, elle répéta avec un cri déchirant « Parlez, au nom du ciel, parlez avant que je meure !»« Vous êtes enceinte, ma mère !»« Moi ?» s'écria Agnès avec un éclat de voix qui lui brisa la poitrine. « Dieu, pardonnez-lui !» Charles, votre mère vous pardonne et vous bénit en ouvrant. Charles se précipita à son cou, criant au secours d'une voix désespérée. Il aurait maintenant voulu la sauver au prix de sa vie, mais il était trop tard. Il poussa un cri du fond de son âme et on le trouva étendu sur le cadavre de sa mère. On fit d'étranges commentaires à la cour sur la mort de la duchesse de Duras et sur la disparition de son médecin. Mais ce que personne ne put révoquer en doute, ce fut la sombre douleur qui creusa des rides plus profondes sur le front déjà si triste de Charles. Catherine seule comprit ce qu'il y avait de vraiment terrible dans la mélancolie de son neveu, car il était évident pour elle que le duc avait du même coup tuer son médecin et empoisonner sa mère. Mais elle ne s'attendait pas à une réaction si subite et si violente dans le cœur d'un homme qui ne reculait devant aucun crime. Elle croyait Charles capable de tout, excepté de remords. Cette tristesse morne et concentrée lui parut d'un mauvais augure pour ses projets. Elle avait voulu susciter à son neveu des chagrins domestiques pour qu'il n'eût pas le temps de s'opposer au mariage de son fils et de la reine. Mais elle avait dépassé son but, et Charles, engagé dans la voie du crime, par un pas terrible, ayant brisé le lien des plus saintes affections, se rejetait dans ses passions mauvaises avec une fiévreuse ardeur et un âpre sentiment de vengeance. Catherine essaya alors de la soumission et de la douceur. Elle fit comprendre à son fils qu'il n'y avait plus pour lui qu'un moyen d'obtenir la main de la reine. C'était de flatter l'ambition de Charles et de se mettre en quelque sorte sous son patronage. Robert de Tarente comprit sa position et cessa de faire la cour à Jeanne, qui accueillait son empressement avec une froide bienveillance pour s'attacher au pas de son cousin. Il montra pour lui la déférence et le respect que Charles lui-même avait affecté pour André lorsque la pensée lui était venue de le perdre. Mais le duc de Duras ne se laissa pas tromper par les sentiments d'amitié et de dévouement que lui témoignait l'aîné de la maison de Tarente, et tout en se montrant fort touché de ce retour inattendu, il se tint en garde contre les sollicitations de Robert. Un événement en dehors de toutes les prévisions humaines, renversa les calculs des deux cousins. Un jour qu'ils étaient sortis ensemble à cheval, comme ils en avaient pris l'habitude depuis leur réconciliation hypocrite, Louis de Tarente, le plus jeune frère de Robert, qui avait toujours aimé Jeanne de cet amour chevaleresque et naïf qu'on garde enfoui comme un trésor au fond de l'âme, quand on a 20 ans et qu'on est beau comme un ange, Louis, disons-nous, qui se tenait à l'écart de l'infâme conspiration de sa famille, n'avait pas souillé ses mains du sang d'André, entraîné par je ne sais quelle ardeur inouïe, se présenta aux portes du château neuf, et tandis que son frère perdait des moments précieux à solliciter un consentement nubile, il fit lever le pont et ordonna sévèrement aux soldats de n'ouvrir à personne. Puis, sans se repiquer un seul instant de la colère de Charles ou de la jalousie de Robert, il s'élança à l'appartement de la reine, et là, comme dit Dominique Dramina, sans autre préambule, il consomma le mariage. Au retour de sa promenade, Robert de Tarente, étonné que le pont ne s'abaissât pas incontinent devant lui, fit d'abord appeler à haute voix les soldats qui gardaient la forteresse, les menaçant d'une punition sévère pour leur impardonnable négligence. Mais comme les portes du château demeuraient fermées, et comme les soldats ne donnaient aucun signe de crainte ou de repentir, le prince se mit dans une affreuse colère et il jura de faire pendre comme des chiens les misérables qui voulaient l'empêcher de rentrer chez lui. Cependant, l'impératrice de Constantinople, effrayée de la sanglante querelle qui allait s'élever entre les deux frères, s'avança seule et à pied au-devant de son fils, et usant de son ascendant maternel, après l'avoir prié de maîtriser ses transports, en présence de la foule qui déjà se pressait en tumulte pour assister à cet étrange spectacle, elle lui raconta à voix basse tout ce qui s'était passé en son absence. Un rugissement de tigre blessé s'échappa de la poitrine de Robert, et peu s'en fallut qu'aveuglé par sa rage, il ne foula sa mère au pied de son cheval, qui, secondant la colère de son maître, se cabrait furieusement et aspirait le sang par ses narines. Quand le prince eut vomi tout ce qu'il avait d'imprécation sur la tête de son frère, il tourna à la bride et, s'éloignant au galop de ce château maudit, il vola chez le duc de Duras, qu'il venait de quitter à peine, pour l'informer de l'outrage et l'exciter à la vengeance. Charles causait avec une sorte d'abandon avec sa jeune femme, qui n'était guère habitué à une conversation si paisible et une familiarité si expansive, lorsque le prince de Tarente, brisé, haletant, trempé de sueur, vint leur faire son incroyable récit. Charles le lui fit répéter 2 fois de suite, tant l'audacieuse entreprise de Louis lui paraissait impossible. Puis, passant par une brusque transition du doute à la fureur, et se frappant le front de son gantelet de fer, il s'écria que, puisque la reine le mettait au défi, il saurait bien la faire trembler au milieu de son château et dans les bras de son amant. Et laissant tomber un regard accablant sur Marie, et le suppliant en pleurant pour sa sœur, il serra fortement la main de Robert et lui promit que tant qu'il vivrait, Louis ne serait pas le mari de Jeanne. Le soir même, il s'enferma dans son cabinet et expédia des lettres à la cour d'Avignon, dont on ne tarda guère à voir les effets. Une bulle datée du 2 juin 1346 fut adressée à Bertrand des Baux, comte de Montessier-Glouzeau, maître justicier du royaume de Sicile, avec ordre de prendre les informations les plus rigoureuses contre les meurtriers d'André, que le pape couvrait en même temps de son anathème, et de les punir selon les lois les plus sévères. Cependant, une note secrète a été jointe à cette bulle, note qui contraria vivement les desseins de Charles, car le souverain pontife commandait expressément au grand justicier de ne pas impliquer dans le procès la reine ou les autres princes du sang pour éviter de plus grands troubles, se réservant en sa qualité de chef suprême de l'Église et de supérieur du royaume la faculté de les juger plus tard selon sa prudence. Bertrand des Baux déploya un grand appareil dans ce terrible procès. On éleva une estrade dans la grande salle des tribunaux, et tous les officiers de la couronne, tous les grands dignitaires de l'État, tous les principaux barons du royaume, eurent leur siège derrière l'enceinte des magistrats. 3 jours après que la bulle de Clément IV avait été publiée dans la capitale, le maître justicier put déjà procéder à l'interrogatoire public des 2 accusés. Les 2 coupables qui étaient tombés les premiers sous la main de la justice étaient, comme on peut bien l'imaginer, ceux dont la condition était moins élevée et la vie moins précieuse, Tommaso Pace et maître Nicolas de Melanzo. Ils furent conduits devant le tribunal pour être, selon l'usage, appliqués préalablement à la torture. Au moment de se rendre auprès de ses juges, le notaire, passant dans la rue à côté de Charles, avait eu le temps de lui dire à voix basse « Monseigneur, le temps est venu de vous rendre ma vie. Je ferai mon devoir. Je vous recommande ma femme et mes enfants. » Et encouragé par un signe de tête de son protecteur, il marcha d'un pas ferme et d'un air délibéré. Le grand justicier, après avoir constaté l'identité des accusés, les livra au bourreau et à ses aides pour qu'ils eussent à les tourmenter sur la place publique afin que leur torture servît de spectacle et d'exemple à la foule. Mais à peine attaché à la corde fatale, un des accusés, Tommaso Pace, déclara au grand désappointement de la foule qu'il allait tout avouer et demanda par conséquent qu'on le reconduisît immédiatement devant les juges. À ces mots, le comte de Terlizzi, qui suivait les moindres gestes des accusés avec une mortelle anxiété, crut que c'en était fait de lui et des autres complices, et usant de son autorité, au moment où Tommaso Pace, les mains liées derrière le dos, escorté par 2 gardes et suivi par le notaire, se dirigeait vers la grande salle des tribunaux, il l'attira dans une maison écartée, lui serra fortement la gorge, et le forçant aussi à pousser la langue en dehors, il la lui coupa avec un rasoir. Les hurlements du malheureux qu'on venait de mutiler si cruellement frappèrent l'oreille du duc de Duras. Il pénétrait dans la chambre où s'était accompli cet acte de barbarie, au moment où le comte de Terlizzi en sortait, et s'approcha du notaire, qui avait assisté à cet affreux spectacle sans donner le moindre signe d'émotion ou de crainte. Maître Nicolas de Melazzo, croyant que le même sort lui était réservé, se tourna vers le duc d'un air calme et lui dit avec un triste sourire « Monseigneur, la précaution est inutile et vous n'aurez pas besoin de me couper la langue comme le noble comte vient de le faire à mon pauvre camarade. On arrachera jusqu'au dernier lambeau de mes chairs avant de tirer un mot de ma bouche. Je vous l'ai promis, Monseigneur. Et vous avez pour garant de ma parole la vie de ma femme et l'avenir de mes enfants. Mais ce n'est pas le silence que je te demande, répondit le duc d'une voix sombre. Tu peux au contraire me débarrasser par tes révélations de tous mes ennemis à la fois. Et je t'ordonne de les dénoncer au tribunal. » Le notaire baissa la tête avec une résignation douloureuse, puis, la relevant tout à coup avec effroi, il fit un pas vers le duc et murmura d'une voix étouffée « Et la reine ? Mais on ne te croirait pas si tu osais la dénoncer. Mais lorsque la Catanèse et son fils, lorsque le comte de Terlizzi et sa femme, lorsque ses familiers les plus intimes, accusés par toi et ne pouvant endurer la torture, la dénonceront d'une voix unanime. Ah, je comprends, mon Seigneur. Il ne vous faut pas seulement ma vie, il vous faut aussi mon âme. C'est bien, encore une fois, je vous recommande mes enfants. Et il s'achemina vers le tribunal avec un profond soupir. Le maître justicier adressa à Tommaso Pace les questions d'usage. Au geste désespéré que fit le malheureux en ouvrant sa bouche ensanglantée, un frisson d'horreur courut sur l'assemblée. Mais l'étonnement et la terreur arrivèrent au comble lorsque maître Nicolas de Melazzo, d'une voix lente et ferme, nomma l'un après l'autre tous les meurtriers d'André, excepté la reine et les princes du sang, et raconta l'assassinat dans tous ses détails. On procéda à l'instant même à l'arrestation du grand sénéchal Robert de Cabanes et des comtes de Terlizzi et de Morcone, qui se trouvaient dans la salle et qui n'osèrent pas faire un mouvement pour se défendre. Une heure après, Philippa, ses deux filles et Donna Cancia allèrent les rejoindre en prison après avoir vainement imploré la protection de la reine. Quant à Charles et à Bertrand d'Artois, enfermés dans leur forteresse de Sainte-Agathe, ils défiaient la justice. En outre, plusieurs autres conjurés, au nombre desquels se trouvaient les comtes de Mileto et de Catanzaro, s'étaient soustraits par la fuite. Aussitôt que maître Nicolas déclara qu'il n'avait plus rien à avouer, qu'il avait dit au tribunal la vérité exacte et entière, le grand justicier prononça son arrêt au milieu du plus profond silence, et sans aucun retard, Tommaso Pace et le notaire furent liés chacun à la queue d'un cheval, et après avoir été ainsi traînés par les principales rues de la ville, ils furent pendus sur la place du marché. On jeta les autres prisonniers au fond d'un souterrain pour être interrogés et torturés le jour suivant. Et comme il arriva que le soir, se trouvant dans le même cachot où ils s'adressaient des reproches mutuels, chacun prétendait avoir été entraîné au crime par les autres. Donna Cancia, dont l'étrange caractère ne se démentait pas, même en face de la torture et de la mort, domina les plaintes de ses compagnons par un bruyant éclat de rire et s'écria joyeusement: « Voyons, mes enfants, mais pourquoi des récriminations si amères et de si discourtois démentis? Nous n'avons pas d'excuses et nous sommes tous également coupables. Quant à moi, qui suis la plus jeune de tous et qui ne suis pas la plus laide, avec la permission de ces dames, si l'on me condamne, du moins je mourrai contenté, car il n'y a pas de jouissance en ce monde que je me sois refusée. Et je m'en vante, on pourra beaucoup me pardonner, car j'ai beaucoup aimé. Vous en savez quelque chose, mes seigneurs. Et toi, méchant vieillard, continua-t-elle en s'adressant au comte de Terlizzi, ne te souviens-tu pas d'avoir couché avec moi dans l'antichambre de la reine? Voyons, ne rougis pas devant ta noble famille. Faites votre confession, mon seigneur. Vous savez bien que je suis enceinte de votre Excellence. Vous savez par quels moyens nous avons fabriqué la grossesse de cette pauvre Agnès de Duras. Que Dieu fasse la paix à son âme. Moi, je ne croyais pas que la plaisanterie tourna si vite au sérieux. Vous savez tout cela et bien d'autres choses encore. Épargnez-nous donc vos lamentations qui, ma foi, commencent à devenir très ennuyeuses et préparons-nous à mourir joyeusement comme nous avons vécu. En achevant ces mots, la jeune camérière bâilla légèrement et, se laissant tomber sur la paille, s'endormit d'un profond sommeil en faisant les plus beaux rêves de sa vie. Le lendemain, dès la pointe du jour, une foule immense encombrait les bords de la mer. Pendant la nuit, on avait dressé une énorme palissade pour contenir le peuple à une telle distance qu'il pût voir les accusés sans les entendre. Charles de Duras, à la tête d'un cortège brillant de chevaliers et de pages, monté sur un cheval magnifique, vêtu de noir en signe de deuil, se tenait près de l'enceinte. Son front rayonna d'une joie féroce lorsque les accusés traversèrent la foule deux à deux, les poignets serrés par des cordes. Car le duc s'attendait à chaque instant à entendre sortir de leurs lèvres le nom de la reine. Mais le grand justicier, homme d'expédient, avait prévenu les indiscrétions de toute espèce en attachant un hameçon à la langue de chacun des accusés. Ces malheureux furent torturés sur le mât d'une galère sans que personne pût entendre un seul mot des aveux terribles que leur arrachait la douleur. Cependant, Jeanne, malgré les torts que la plupart de ses complices avaient envers elle, sentant renaître la pitié pour une femme qu'elle avait respectée comme une mère, pour ses compagnes d'enfance, pour ses amis et peut-être un reste d'amour pour Robert de Cabanes, envoya deux messagers pour supplier Bertrand des Baux de faire grâce aux coupables. Mais le maître justicier, ayant saisi les envoyés de la reine, leur fit subir la torture. Et comme ils avouèrent avoir pris part eux aussi au meurtre d'André, il les condamna eux au même supplice que les autres. Dona Garcia, seule à cause de sa position, échappa à la question et son arrêt fut différé jusqu'au jour de son accouchement. Or, tandis que la belle camériste retournait à sa prison, en jetant un sourire au plus beau cavalier qu'elle pouvait distinguer dans la foule, passant à côté de Charles de Duras, elle lui fit signe d'approcher, et comme, à cause du même privilège, sa langue n'était pas percée d'un fil de fer, elle lui parla quelque temps à voix basse. Charles pâlit affreusement et, portant la main sur son épée, s'écria « Misérable ! Vous oubliez, monseigneur, que je suis sous la protection de la loi. Oh, ma mère, ma pauvre mère !» murmura Charles d'une voix étouffée. Et il tomba à la renverse. Le jour suivant, le peuple, plus matinal que le bourreau, demandait sa proie à grands cris. Toutes les troupes nationales ou mercenaires dont l'autorité judiciaire pouvait disposer, échelonnées dans les rues, opposaient des digues au torrent de la foule. Cet instant de cruauté inassouvie qui dégrade trop souvent la nature humaine, s'était réveillé dans la populace. Le vertige de la haine, la démence du sang, tournait les têtes et chauffait les imaginations altérées de vengeance. Des groupes d'hommes et de femmes, rugissant comme des bêtes fauves, menaçaient d'abattre les murs de la prison si on ne leur livrait les condamnés pour les conduire au supplice. Et une rumeur immense, égale, continue, s'élevait comme le grondement du tonnerre et allait glacer d'effroi le cœur de la reine. Cependant, malgré toute la bonne volonté que Mgr Bertrand des Baux, comte de Montescaglioso, avait mise à contenter le vœu populaire, tous les préparatifs pour cette exécution solennelle n'avaient pas pu être prêts qu'à midi, à l'heure où le soleil embrasait la ville de ses rayons les plus ardents. Ce fut d'abord un cri énorme, poussé par 10 000 poitrines haletantes, au moment où le bruit courut sur la foule, que les condamnés allaient paraître. Puis il se fit un instant de silence, et les portes de la prison roulèrent lentement sur leurs gonds rouillés et grinçants. Une triple rang de cavaliers, la visière basse et la lance en arrêt, ouvrit la marche, et au milieu des huées et des malédictions sortirent l'un après l'autre les condamnés, chacun lié sur une charrette, bâillonné et nu jusqu'à la ceinture, au milieu de deux bourreaux qui étaient chargés de les torturer le long du chemin. Sur la première charrette était l'ancienne blanchisseuse de Catane, devenue depuis grande sénéchale et gouvernante de la reine, Madame Philippa de Cabanes, et les deux bourreaux qui se tenaient à sa droite et à sa gauche, un peu en arrière, la flagellaient avec tant de fureur que le sang qui jaillissait de ses plaies laissa une longue trace dans toutes les rues que traversa le cortège. Immédiatement après leur mère, suivaient sur deux charrettes différentes les comtesses de Terlizzi et de Morcone, dont l'aînée n'avait pas plus de 19 ans. Les deux sœurs étaient d'une beauté si admirable qu'un murmure d'étonnement s'éleva de la multitude, et des regards avides s'attachèrent sur leurs épaules nues et frémissantes. Mais en contemplant ces formes ravissantes et enviées, un sourire féroce échappait aux hommes chargés de leur supplice. Armés de rasoirs, ils leur enlevaient des lambeaux de chair avec une voluptueuse lenteur et les jetaient à la foule qui se les disputait avec acharnement et désignait au bourreau l'endroit du corps des victimes qu'elle désirait de préférence. Robert de Catane, grand sénéchal du royaume, les comtes de Terlizzi et de Mercone, Raymond Pace, frère de l'ancien valet de chambre qui avait été exécuté 2 jours auparavant, et plusieurs autres condamnés, traînés également sur des charrettes, étaient en même temps fustigés avec des cordes et écorchés avec des rasoirs. Mais leur chair était arrachée avec des tenailles rouges et jetée sur des réchauds de braise. Tout le long de la route, on n'entendit pas un cri de douleur sortir de la bouche du grand sénéchal. Il ne se tordit pas une fois sous ses atroces souffrances. Et cependant, les bourreaux qui le tourmentaient y avaient mis tant de rage que le malheureux était mort avant d'arriver au lieu du supplice. Au centre de la place Sant'Eligio, on avait élevé un immense bûcher. C'est là que l'on transporta les condamnés et on jeta sur les flammes ce qui restait de leur corps mutilé. Le comte de Terlizzi et la grande sénéchale vivaient encore, et 2 larmes de sang coulèrent des yeux de la malheureuse mère quand elle vit jeter au feu le cadavre de son fils et les restes palpitants de ses 2 filles, qui par leurs cris étouffés montraient qu'elles n'avaient pas encore cessé de souffrir. Mais tout à coup un bruit épouvantable couvrit les hurlements des victimes. L'enceinte se brisa, renversée par le peuple, et des furieux, se ruant sur le bûcher, armés de sabres, de haches et de couteaux, arrachant aux flammes les corps des condamnés morts ou vivants, les mirent en pièces et emportèrent leurs os en mémoire de cette horrible journée pour en fabriquer des sifflets et des manches de poignards. Le spectacle de ces affreux supplices n'avait pas rassasié la vengeance de Charles de Duras. Secondé par le maître justicier, il provoquait tous les jours des exécutions nouvelles, et bientôt la mort d'André ne fut plus qu'un prétexte pour exterminer légalement tous ceux qui s'opposaient à ses desseins. Mais Louis de Tarente, qui s'était emparé de l'âme de Jeanne et sollicitait avec ardeur les dispenses nécessaires pour légitimer son mariage, regardant désormais comme un affront personnel tous les actes de haute juridiction qui exerçaient contre sa volonté et en violation flagrante des droits de la reine, arma tous ses adhérents et, grossissant sa bande de tous les aventuriers qu'il put faire entrer à sa solde, mit sur pied une force suffisante pour défendre son parti et résister aux envahissements de son cousin. Naples se trouva alors divisée en deux camps ennemis qui en venaient aux mains sous le moindre prétexte, et ces escarmouches journalières étaient toujours suivies de quelques scènes de pillage ou de mort. Cependant, pour suffire aux exigences de ces soldats mercenaires et pour soutenir sa lutte intestine contre le duc de Duras et son propre frère Robert, Louis de Tarente avait besoin d'argent. Et il se trouva un jour que les coffres de la reine étaient vides. Jeanne retombait déjà dans son morne désespoir, et son amant, brave et généreux qu'il était, s'efforçait de la rassurer de son mieux, sans trop savoir lui-même comment il se tirerait d'un pas si difficile. Mais la mère Catherine, dont l'ambition était satisfaite, en voyant un de ses fils, ou n'importe lequel, arriver au trône de Naples, vint inopinément à leur secours et promit d'une voix solennelle que peu de jours lui suffiraient pour déposer aux pieds de sa nièce un si riche trésor que, toute reine qu'elle était, elle n'en avait jamais rêvé de pareil. L'impératrice prit alors avec elle la moitié des troupes de son fils et, marchant sur Sainte-Agathe, assiégea la forteresse dans laquelle Charles et Bertrand d'Artois s'étaient réfugiés pour se soustraire aux poursuites de la justice. Le vieux comte, frappé d'étonnement à la vue de cette femme qui avait été l'âme de la conspiration, ne comprenait rien à sa démarche hostile, et il lui envoya des messagers pour lui demander en son nom quel était le but de ce déploiement de forces militaires. À quoi Catherine répondit ses propres paroles, que nous traduisons littéralement. « Mais très cher, rapportez de notre part à Charles, notre fidèle ami, que nous désirons parler avec lui en secret d'une affaire qui nous intéresse également tous les deux, et qui ne s'effraie pas de nous voir arriver en ennemi, car nous l'avons fait à dessein et pour une certaine cause que nous lui expliquerons dans notre entretien. Nous savons qu'il est retenu au lit par la goutte. Voilà pourquoi nous nous étonnons guère qu'il ne soit pas venu à notre rencontre. Veuillez donc le saluer et le rassurer de notre part, et dites-lui que nous demandons d'entrer dans sa terre, si tel est son bon plaisir, avec messire Nicolas Acciaiuoli, notre intime conseiller, et 10 de nos soldats seulement, pour causer avec lui d'un sujet grave que nous ne pouvons pas confier aux messagers. » Revenu de sa surprise à la suite d'explications si franches et si amicales, Charles d'Artois envoya son fils Bertrand au-devant de l'impératrice pour la recevoir avec tout le respect dû à son rang et à sa haute position dans la cour de Naples. Catherine monta vivement au château avec les marques de la joie la plus sincère, et après s'être informée de la santé du comte en lui témoignant les sentiments de la plus cordiale amitié, restée seule avec lui, baissant la voix d'un air mystérieux, elle lui expliqua que l'objet de sa visite était de consulter sa vieille expérience sur les affaires de Naples et de solliciter sa coopération active en faveur de la reine, mais que, comme rien ne la pressait de quitter Sainte-Agathe, elle attendrait le rétablissement du comte pour profiter de ses lumières et l'informer de la marque des événements depuis son éloignement de la cour. Enfin, elle sut captiver si bien la confiance du vieillard et dissiper si adroitement ses soupçons qu'il la pria d'honorer le château de sa présence aussi longtemps que les affaires le lui permettraient, et reçut peu à peu toute la troupe dans ses murs. C'était ce que Catherine attendait. Le jour où son armée s'installa à Sainte-Agathe, Elle entra dans la chambre du comte d'un air courroucé, suivie de quatre soldats et saisissant le vieillard à la gorge. Misérable traître! S'écria-t-elle d'une voix sévère, tu ne ressortiras pas de nos mains avant de recevoir le châtiment que tu mérites. En attendant, montre-moi le lieu où tu as caché ton trésor. Si tu ne veux pas que je jette ton corps en pâture aux corbeaux qui s'abattent sur les donjons de ta forteresse. Le comte, étroitement garrotté, le poignard sur la poitrine, n'essaya pas même de crier au secours. Il tomba à genoux et supplia l'impératrice d'épargner au moins la vie de son fils, qui ne s'était pas encore guéri de la noire mélancolie qui troublait sa raison depuis l'horrible catastrophe, et se traînant péniblement jusqu'à l'endroit où il avait enfoui son trésor, il le montra du doigt à l'impératrice en répétant au milieu de ses sanglots: oh, prenez tout, prenez ma vie, mais sauvez mon fils! Catherine ne se posséda pas de joie en voyant étaler à ses pieds les vases d'un travail exquis et d'une richesse prodigieuse, des écrins de perles, de diamants et de rubis d'une valeur incalculable, des coffres remplis de lingots d'or et toutes ces merveilles asiatiques qui dépasse le rêve de l'imagination la plus somptueusement effrénée. Mais lorsque le vieillard, d'une voix tremblante, insista pour obtenir au prix de sa fortune et de sa vie la liberté de son fils, l'impératrice, reprenant son impitoyable froideur, lui répondit durement: j'ai déjà donné l'ordre qu'on amène ici votre fils. Mais préparez-vous à lui faire vos adieux éternels, car il va être dirigé sur la forteresse de Belfi, et vous, selon toutes les probabilités, vous finirez vos jours au fond du château de Sainte-Agathe. Telle fut la douleur qu'éprouva le pauvre comte à cette séparation violente, que peu de jours après, on le trouva mort dans son cachot, les lèvres couvertes d'une écume sanglante et les poignets rongé par désespoir. Quant à Bertrand, il ne lui survécut pas longtemps. Achevant de perdre la raison à la nouvelle de la mort de son père, il se pendit aux barreaux de sa prison. Ainsi, les meurtriers d'André se détruisaient les uns les autres comme les animaux venimeux enfermés dans la même cage.